Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Comme chaque semaine, nous reviendrons sur l'actualité du moment ainsi que nos jeux, à savoir cette semaine Assassin's Creed Revelation. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Morgan. Salut!
Salut, ça va?
Ça va, super week-end. Alors, nous allons commencer donc par les news, et je vais commencer par un jeu indépendant, et j'ai envie de dire...
Ok, donc là tu viens de casser les oreilles de tout le monde.
Non, parce que, en fait, si vous voulez, là, cette semaine j'ai découvert un MMO indépendant en développement qui s'appelle Guns of Icarus Online. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu? Ben, en fait, ce jeu c'est tout ce que j'aime, c'est à savoir du post-apocalyptique, du steampunk, et des navires volants à la série de Arcadia. Enfin, sauf que là ils utilisent bien évidemment des espèces de dirigeables, hein. Et en gros, c'est un MMO qui va utiliser des classes aussi, où il y aura, comme un peu comme dans Team Fortress, aura l'ingé, le barreur, etc. Mm. Et vous aurez à la fin, donc vous allez commencer par la classe de base, et à la fin vous pourrez être capitaine de votre propre navire. Et ça, c'est rocks, mes amis. Je n'ai qu'une hâte, c'est tester ce jeu. En plus, il y aura de l'exploration apparemment et tout. Donc bon, je vous conseille de le surveiller parce que bon, pour le moment. On n'a pas vu grand chose, hein, juste un petit teaser, mais un teaser avec le moteur du jeu qui fait diablement envie, n'est-ce pas, mon cher Morgan?
Oui, c'est vrai que ça a l'air sympa. Ouais.
Ça fait diablement envie, pour vous décrire un peu le teaser, c'est un vaisseau dans la tempête et tout, il y a un rendu, dans les nuages, enfin, c'est super immersif, quoi. Et donc, à suivre. Oui, ensuite, nous allons enchaîner sur, donc, Ni no Kuni. Ni no Kuni, qui s'est malheureusement, je crois qu'on peut dire gaufré, hein, mon cher Mandren.
Oui, c'est la déception commerciale.
Il s'est gaufré à 67 000 exemplaires. Bon, il y a des RPG qui ont fait pire, vous me direz. Mais c'était pas des jeux de cette envergure. Mm. Donc, on parle bien de la version PS3, hein,
oui.
Pour être précis.
La version DS étant sortie l'année dernière sur au Japon.
Donc, mon cher Morgan, est-ce que ton petit cœur de gamer saigne?
Bah écoute, j'ai envie de dire que je suis pas si surpris que ça, parce que on sait depuis un moment déjà que Ni no Kuni version PS3 n'est pas un jeu qui plaît aux gamers purs, puisque...
Bah, la version DS ne leur paie pas plus, je crois.
Exactement, mais, mais disons que le support DS de base... fait plus parler au un public jeune et sur PS3 on pouvait espérer à quelque chose de un petit peu plus mature au niveau du gameplay, parce que bon, au niveau du visuel, on sait très bien que c'est enfantin.
Mais Miyazaki, je veux dire, tu vas pas demander, enfin tu me diras, Miyazaki a fait Mononoke, donc
exactement. Et donc là, bon, c'est vrai qu'on a la confirmation du fait que le public n'est pas forcément au rendez-vous. En tout cas, le public
japonais,
le public gamer, quoi, voilà. Donc c'est un petit peu dommage, et donc du coup j'ai de sérieux doutes quant à une sortie en Europe ou aux États-Unis de Ni no Kuni, étant donné le relatif échec commercial.
Ouais, parce que il faut savoir que c'est pas le même jeu exactement sur DS, hein, pas les mêmes dialogues, etc. Ils ont changé pas mal de trucs.
Oui.
Donc c'est sûr que c'est assez dommage.
C'est un petit peu dommage. Hein. Tant pis.
Bon, tant pis. Alors, ensuite, nous allons enchaîner sur Jak and Daxter, encore une version HD, j'ai envie de dire. Wouhou, super.
C'est un petit peu le règne de la PS2 maintenant qui arrive sur PlayStation 3, en fait. Puisque, bon, on le sait, on l'avait déjà signalé à plusieurs reprises, la PlayStation 3 est en train de se doter de HD collection à tire larigot. Donc, on a eu... Ico et Shadow of the Colossus, on va avoir les MGS Collection, Silent Hill et tout ça. Et donc évidemment, on s'attendait à une collection HD sur Jak and Daxter, qui a été un très gros succès sur la PlayStation 2. Et donc voilà, ce n'était qu'un secret de polichinelle. On attendait l'annonce, et donc finalement, on aura cette HD Collection en février 2012. Comme on avait eu quelques petites rumeurs qui l'indiquaient, et donc on aura dans cette HD collection Jak and Daxter le premier, Jak 2 et Jak 3. Le tout pour, a priori, enfin on imagine, une quarantaine d'euros, vu que c'est généralement le prix consacré de ces HD collections là. Donc voilà, donc moi personnellement, je trouve ça, je trouve que c'est sympa de faire découvrir d'excellents jeux PS2 aux nouvelles générations qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de jouer à ces jeux-là, qui n'ont pas vraiment pris une ride, je trouve. Et
Attends, nouvelle génération. Ah ouais, c'est vraiment nouvelle, hein,
oui,
c'est.
c'est vraiment nouvelle. Bah, tu sais que il y a quand même des jeunes joueurs sur PlayStation 3 et qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à la PlayStation 2, donc
Eh
voilà. Donc
oui,
je
c'est
pense que
dommage.
c'est plutôt pas mal. Et puis pour les joueurs qui ont déjà joué et qui ont toujours une PlayStation 2 et leur jeu, je pense que c'est peut-être pas la peine d'attendre le portage HD, sachant que c'est juste un portage HD, il n'y aura pas grand-chose d'autre. Si le support de la 3D, voilà, si vous êtes un gros Richard et que vous avez une télé 3D, mais bon voilà, c'est tout.
Affaire à suivre. C'est donc nous avons eu des news toujours chez Sony de la Vita. On a eu la liste des titres prévus en Europe. Alors pour vous faire vite fait la liste, donc nous aurons bien entendu du Uncharted, Golden Abyss, Wipeout 2048, qui personnellement j'attends beaucoup, Reality Fighters, Little Deviants, dont nous avais dit tout le bien que tu pensais au Paris Games Week, n'est-ce pas?
Oui, mais sachant que j'y ai pas joué, hein, c'est, je voulais absolument pas y jouer au Paris Games Week, c'est juste ça.
C'est juste que t'as trollé en fait, c'est tout,
Oui,
voilà.
j'ai
Ensuite, Modern Nation Racer, Everybody Golf 6,
Oui.
Escape Plan, on attendait aussi. Alors le jeu personnellement j'attends le plus, Gravity Rush alias Gravity Days,
Ouais.
dont on avait parlé dans un podcast précédent et où j'avais mis la musique qui est juste, c'est super génial.
On l'attendait pas si tôt d'ailleurs, Gravity Rush.
Ouais, on pensait pas qu'il serait au lancement en fait, mais
C'est une bonne nouvelle.
c'est cool, c'est génial. Hustle Kings, MotorStorm RC, Top Dar, c'est Super Stardust Delta. Alors il y en a une bonne partie, je ne sais pas absolument pas ce que c'est comme jeu, mais
Moi, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de Ridge Racer au lancement européen de la PlayStation Vita. C'est quand même assez surprenant.
ouais, c'est vrai.
Habituellement, il y a toujours ça. Bon, bah, c'est pas
Bah,
grave.
au moins on aura un Wipeout, c'est pas grave.
Ouais. Donc le
Le
22
Wipeout qui est
février.
excellent, hein, il paraît, donc
Ouais.
Putain,
Et...
qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir jouer au Paris Games
Donc
Week. Putain,
voilà.
le tirage au sort.
Au niveau jeu de course, il y a quand même MotorStorm et Wipeout. Et
Ouais.
alors je sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai deux jeux qui se dégagent, qui me donneraient envie d'acheter la PlayStation Vita avec ces jeux-là. Ce serait Uncharted et Gravity Rush.
Moi, c'est Gravity Rush, point. J'attends ce jeu, mais...
Ouais. Donc voilà, pour le
Donc,
22 février 2012.
bah, ma foi, un beau catalogue de lancement, je trouve.
Oui,
Ils
c'est
ont
en tout
très joli catalogue.
cas plus convaincant que le catalogue 3DS au lancement, ça c'est certain.
Ah oui, ça c'est clair. Il n'y a même pas photo.
Oui, c'est sûr.
Donc, nous allons maintenant passer aux indépendants. Et on va commencer par le Indie Music Bundle. Est-ce que tu pourrais me donner la liste des jeux, mon cher Mandane, qui sont concernés par ce bundle?
Alors, il y a une dizaine de jeux en fait dans ce Indie Music Bundle.
Qui, comme son nom l'indique,
Voilà,
propose de la musique, hein, pas des
exactement.
jeux à proprement parler.
Les OST de ces jeux-là. Donc évidemment, pour les plus connus, on aura Minecraft, on aura Super Meat Boy, on aura V. Alors je sais pas du tout comment. Enfin,
Voilà.
personne sait vraiment comment le
Le
prononcer. Donc
prononcer.
c'est 5 V d'affilée. Une OST très sympa d'ailleurs, comme celle de Super Meat Boy. Ça pulse bien, c'est vraiment sympa. Sinon, donc il y en a pour compléter la dizaine de jeux. On a Cobalt. On a Imposter Nostalgia, on a Ravenmark, on a Ares, Return All Robots, Mighty Milky Way et Tree of Knowledge. Donc tout ça, vous pouvez en fait tout simplement. Et donc c'est la promotion dure une seule journée, ce sera le
Sachant que vous payez ce que vous voulez, hein, c'est
ouais.
un pay what you want, je crois que c'est, il me semble,
Minimum
un
1 dollar.
minimum
Minimum
1 dollar, voilà.
ces 10 albums là.
Voilà. Donc, pour 1 dollar, j'ai envie de dire, allez, faites peut-être pas vos putes donner 5 dollars, quoi. Je prends sérieux, les mecs.
Et c'est une seule journée, donc c'est lundi 28. Donc il va falloir que tu publies très vite ce podcast, parce que sinon on va être en retard.
Non, mais je suis là, t'inquiète.
Voilà. Donc c'est le bon plan de la journée si vous écoutez ce podcast le lundi 28 novembre.
Alors ensuite, toujours du côté des indépendants, nous avons le Humble Introversion Bundle.
Ouais. Le gros bon plan de la semaine, donc ça, vous avez encore une dizaine de jours pour.
Alors, c'est un bundle, si j'ai bien compris, qui regroupe tous les jeux d'introversion, n'est-ce pas?
Bah, tous les jeux, je sais pas, mais une grosse partie en tout cas. Je vais vous faire un petit peu la liste. Vous avez du Darwinia, c'est un jeu de stratégie. Multiwinia, qui est son pendant jeu de stratégie en multijoueur cette fois. Vous avez Defcon, qui est personnellement un jeu que j'adore. C'est un jeu en fait de simulation de guerre nucléaire. Donc en gros, vous avez. Alors dit comme ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mordren est-il un guerrier dans l'âme? En fait, non, pas vraiment.
Ah bah tu joues à StarCraft 2, t'es forcément un guerrier, hein, mon
Oui, bien sûr. Oui. Sinon, c'est un vrai jeu de stratégie où vous êtes en fait le jeu se déroule sur la map monde. En fait, vous voyez tout le monde entier et vous incarnez un général qui
Qui a le bouton nucléaire, c'est ça?
exactement. Soit par exemple, donc vous avez tous les continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et tout ça. Et en fait, vous placez différentes bases, donc des bases de soutien aérien en fait pour tuer les missiles nucléaires qui vous arriveraient à la figure par exemple. Vous avez évidemment les bases de vos silos nucléaires. Donc
Mais en fait, c'est un jeu de simulation de la guerre froide, ça.
c'est exactement ça. Et la guerre froide qui aurait dérapé, puisque le but évidemment c'est d'atomiser les adversaires. Et franchement, on dirait pas comme ça, mais c'est très très tactique. Les parties peuvent durer des heures comme des quelques minutes si vous déclenchez la guerre nucléaire tout de suite. Et c'est vraiment, je trouve qu'il y a un vrai côté addictif à ce jeu-là. Mais j'y avais joué il y a 2 ans et j'étais resté scotché dessus. C'est vrai que on reste dessus très très longtemps. Et franchement, donc je vais terminer la liste et après je vous parlerai du prix.
Parce que, comme d'habitude dans les Humble Indie Bundle, donc il y a des jeux supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le pack de base.
Exact. Alors pour le dernier jeu Introversion, il y a Uplink. C'est un jeu où vous jouez les hackers en fait. Alors pour de faux bien sûr, hein, vous n'allez pas hacker le PSN, quoique. Donc voilà. Sinon pour les, donc en fait le prix de base là, c'était à peu près, donc c'était moins de 4 $. La moyenne des paiements en tout, c'était moins de 4 $. Donc si vous dépassez un petit peu cette moyenne de paiement là, vous aurez le droit à avoir deux autres jeux, à savoir Aquaria, qui est un jeu de shoot qui a l'air vraiment très sympa, et Crayon
Ah non
Physics.
non non attends attends Aquaria c'est pas un jeu de shoot hein.
Ah
Je
pardon,
corrige. C'est un
j'ai
Metroidvania Aquaria, c'est un Metroidvania. En fait, c'est un peu ça ressemble un peu si tu veux à École de fin sur Mega Drive.
D'accord.
Enfin c'est un Metroidvania dans l'eau quoi.
D'accord. Ok, mais en tout
C'est
cas.
pas un shoot hein.
Ok, d'accord, j'ai cru. Donc en tout cas, ça avait l'air très sympa. Et puis Crayon Physics, qui est un jeu en fait où, si j'ai bien compris, tu dessines des éléments pour les faire réagir entre eux.
Ouais, pour résoudre des puzzles, etc. C'est très bien fait.
Donc voilà. Donc moi personnellement, je vais investir, genre à mon avis, 5 $. Je pense qu'il les mérite. À savoir en plus qu'il y a une petite partie des frais qui, enfin des recettes qui vont être reversées à des associations caritatives pour le jeu vidéo. Et ça, c'est toujours.
Attends, ça c'est pas. Il me semble. T'es sûr que normalement tu choisis. Il me semble que normalement tu dois choisir si tu donnes au développeur
T'es pas
ou si tu
obligé.
donnes.
En fait, si tu mets 5 $, ils vont reverser toujours ce qu'ils veulent à ces associations caritatives. Et tu peux aussi décider quel montant tu vas donner aux développeurs, quel
Ok.
montant tu vas donner aux associations caritatives. Donc ça, c'est
Ok.
toujours sympa. Voilà, donc c'est un vrai bon plan.
Sachant que j'insiste sur un point quand même, parce que il y a eu une polémique récemment sur les forums où on avait un peu l'impression que les gens, bah, comme si oui, il y a des trucs caritatifs à côté, les gens ont l'impression que c'est pas une opération commerciale, mais que c'est un truc 100% caritatif et qu'ils commencent à en avoir marre qu'on vienne leur quémander des trucs. Alors moi, je suis désolé.
Non,
C'est une opération commerciale, qu'on soit clair.
non. Oui, bien sûr.
Si vous n'avez pas envie de payer, ne payez pas. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'acheter non plus. C'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre à la base quand même, c'est permettre aux développeurs de bouffer. Hein. Je veux dire,
C'est
c'est ça le
clair.
but. Hein. Donc voilà. Toujours sur les indépendants, et on revient sur la musique. Je voulais vous parler d'une initiative qu'il y a eu il y a un mois à peu près. C'est le 16 octobre dernier. Mais je vous en parle maintenant parce que j'ai eu j'en ai eu vent récemment, donc tant qu'à faire, autant en parler. Alors c'est une initiative où en fait pour soutenir le Japon, des groupes de musique ont produit des albums, des remixes de jeux existants, quoi. Et donc, il y a eu un groupe qui s'appelle Metroid Metal, qui a produit à l'époque sur un DVD un remix des musiques de Grandia et de Grandia 2 pour être précis. Et donc maintenant ces musiques sont disponibles en téléchargement. Alors vous avez le choix, soit vous les téléchargez gratuitement, mais il n'y a aucun problème. Soit vous donnez un petit quelque chose qui ira à la Croix-Rouge japonaise.
Ah ouais, c'est bien
Donc
ça.
vous pouvez les télécharger gratuitement si vous voulez. D'ailleurs les musiques sont même disponibles à l'écoute en streaming et vous pouvez même les télécharger. Je vous conseille parce que c'est vraiment un remix excellent des musiques de Grandia 2. D'ailleurs, je vous mettrai, puisque elles sont en libre écoute, je vous les mettrai je vous en mettrai une à la fin de ce podcast pour que vous puissiez vous faire une idée. Franchement, les mecs, ils rockent bien du poney, quoi. Donc, je vous donne l'adresse. C'est sur http://stemage.bandcamp.com. Stemage, STEMAGE. bandcamp.com. Et de toute façon je vous mettrai le lien dans le podcast la news. Donc
D'accord.
je vous conseille vraiment de ne serait-ce que d'écouter parce que c'est vraiment un remix excellent des musiques de Grandia 2. Voilà.
D'accord.
Ensuite nous avons des news de Beyond Good and Evil 2, n'est-ce pas? Une Beyond Good and Evil 2 qui revient d'entre les morts, j'ai envie de dire. Alors, il est revenu cette semaine par la fenêtre via une conférence qu'a donnée Michel Ancel à Montpellier. Alors, via un salon qui fait ça tous les ans, et du coup, Michel Ancel en a profité pour parler de Beyond Good and Evil 2. Et pourquoi on vous en parle cette semaine? Parce que bon, finalement, il y a eu des vidéos montrées, mais il y en a une, c'est en fait que c'était le leak qui avait déjà été diffusé, je crois, il y a un ou 2 ans à peu près.
Oui.
Mais il y a eu une nouvelle vidéo, par contre, qui était très intéressante, parce que, bon, déjà, Mickey Lancel a parlé un peu de sa vision de ce qu'est un monde futuriste. C'est-à-dire qu'il prenait l'exemple pour Montpellier, il disait que, par exemple, à Montpellier, tu vois toujours que t'as l'architecture ancienne de la ville qui se chevauche sur la nouvelle et tout, et il voulait rendre ça dans son jeu à lui. Et qu'est-ce que ça donnait? Bah, ça donnait une espèce de ville indienne assez qui ressemble aux villes indiennes. Enfin, j'ai pas envie de dire au cliché, mais à l'image qu'on se fait des villes indiennes, c'est-à-dire des bidonvilles, etc.
Ouais.
Où ils mélangeaient ça avec comment dire, de la technologie moderne et tout. Et je suis assez d'accord avec lui finalement. C'est vrai qu'on a tendance, quand les gens ont tendance, quand ils font des trucs futuristes, des trucs super propres et tout modernes, où il n'y a pas une trace du passé. Alors que non, finalement le futur c'est pas ça. T'as toujours, tu vois Paris aujourd'hui, mais je veux dire, des traces du passé, t'en as à l'appel quoi.
C'est clair.
Ce qui a été très intéressant aussi, par contre, plus au niveau de la conception cette fois, c'est qu'apparemment ils ont créé un moteur qui va pouvoir générer automatiquement la ville. Alors je sais pas, est-ce qu'il va pouvoir générer la ville de matière procédurale, ce qui voudra dire personne n'aura la même ville. Ça personnellement j'ai un gros doute quand même parce que c'est assez,
Ouais, ça
ne
m'étonnerait.
serait-ce qu'au niveau des ressources c'est assez,
Ouais.
c'est assez velu quoi on va dire. Mais je pense que plutôt que ce sera au niveau de la conception du jeu. Ça va être vachement intéressant. En tout cas, ils ont montré le résultat. Alors que je vous avoue que bon, artistiquement, moi, je suis pas super fan parce que Beyond Good and Evil, pour moi, il y a un côté cartoon et là, je l'ai pas du tout retrouvé. Je veux dire, pour ceux qui ont vu le leak, c'est exactement le même style, hein, c'est du style réaliste et tout. Et personnellement, je suis pas, ça me plaît pas trop. Par contre, je suis impressionné par sur le plan purement technique. Si ça, ce qu'ils ont montré, c'est général aléatoirement. Putain, c'est juste super impressionnant, quoi. C'est waouh.
Mais donc du coup, si c'est généré aléatoirement, ça veut dire que ce sera vide ou il y aura des missions qui seront générées aléatoirement aussi, parce que
Bah non, en fait, apparemment, c'est juste la ville en elle-même. Il parlait purement au niveau du moteur. Hein, il parlait pas du contenu. Mais ça peut être très intéressant, tu vois, dans le développement des jeux, je veux
Ah oui.
dire. Ça peut être vachement utile hein, un truc comme ça quoi. Ça te fait gagner énormément de temps mine de rien. Donc
Ouais, c'est sûr.
surtout que de ce que j'ai vu, c'est vraiment ça offre ça a l'air vachement bien fait quoi. Donc quoi qu'il en soit, une affaire à suivre. On espère qu'on aura des news très bientôt. Ils ont l'air bien repartis sur Bangoulin Eevee 2 maintenant que Rayman Origins s'est terminé, donc
Ouais,
on croise les doigts.
ils ont parlé vite fait du support sur lequel ça tournerait, parce que il fut un temps où on parlait de la Wii
Alors je sais plus trop. Alors il me semble qu'on parlait de la Wii U, oui, mais alors là je serais
U, mais
incapable de le dire.
d'accord.
A priori ça serait de la Wii U pour les histoires avec les photographies et tout, donc
D'accord,
bon,
ouais.
pourquoi pas. On
Ok.
verra bien. Et donc nous avons terminé cette session news par Ubisoft.
Le coup de gueule du tyran.
Ouais, ça va être mon coup de gueule de la semaine. Alors
Pour une fois que
bon,
c'est pas moi.
pour faire le résumé, à la base ça vient de I Am Alive, qui était donc la grosse arlésienne de Ubisoft, et on a appris qu'il sortirait sur Xbox Live Arcade et PSN. Et là, bien évidemment, les journalistes PCistes se sont dit, mais attends, il n'était pas supposé sortir sur PC ce jeu? Et là, bah, ils ont posé la question, hein. Et bah, ah, ils n'ont pas été déçus du voyage,
Ouais,
hein, vu
tu
la réponse.
m'étonnes.
Bon, en gros, on leur a expliqué que non, ça valait pas le coup de sortir le jeu sur PC, parce que si c'était pour en vendre 50 000 exemplaires, ma bonne âme, aucun intérêt.
Oh, mais
Donc,
c'est sympa, quoi.
vous connaissez les joueurs PC, leur font pas beaucoup pour démarrer au quart de tour, donc ça a commencé à gueuler, évidemment. Alors, pour en rajouter une couche, donc t'as Ghost Recon qui est venu par-dessus. C'est-à-dire que, en gros, on a appris que la version console enfin, le Ghost Recon qu'ils sont en train de développer pour les consoles, là, ils n'allaient pas le sortir sur PC, et que l'espèce de free-to-play à deux balles qu'ils étaient en train de développer, là, que personne n'attend, en
Oui,
gros,
super.
ça, en fait, c'est le jeu qui est censé remplacer les versions console, tu vois.
Lol. Oh.
Alors, pour résumer, ce qu'a dit le mec, c'est, bon, alors, vous êtes gentil, vous voulez pas de DRM, vous voulez pas payer vos jeux, espèce de sale pirate.
Oh.
Donc, on s'adapte au marché, on vous sert un petit free to play à deux balles pour que vous puissiez jouer.
Oh là là.
Ok, thanks. Merci.
Et en fait, il disait dans l'interview. Et ça, je trouve que c'est absolument scandaleux, que 95% de nos consommateurs allaient pirater le jeu. 95%. J'aimerais bien savoir d'où il sort ces chiffres.
Bon, déjà, même, imaginons que le chiffre soit exact. Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est que 95%? Est-ce que c'est 95% des personnes qui jouent au jeu? Moi, imaginons que ce soit vrai. Hein. Moi, je suis ouvert à tout. Est-ce que c'est 95% de mecs qui auraient acheté le jeu déjà? Bon, déjà, ça à la base. Sans parler du fait qu'on peut remettre en doute les chiffres, hein, parce que moi, je sais
Bien
pas comment
sûr.
ils comptent, je sais pas comment ils se débrouillent, etc.
Ouais, grave.
Ensuite, j'ai envie de dire, moi, ils disent ça. Je sais pas. Il y a des boîtes comme CD Projekt qui a priori n'ont pas à se plaindre du PC vu qu'ils vendent des jeux par millions.
Exactement.
Même plus récemment, je veux dire Skyrim, The Elder Scrolls avec Bethesda. Ok, ça ne représente que 14% des ventes totales sur PC, mais 14% de plusieurs millions, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est. Donc bon,
Ouais.
moi je veux bien qu'on dise qu'on vendra sur PC, mais à un moment donné, voilà.
Non mais moi ce
Donc.
qui me saoule c'est qui en fait on punit ceux qui achètent.
Ouais, on punit ceux qui achètent. Donc
Ça c'est pénible quand même.
Bon là je vais passer à mon coup de gueule parce que là on en était à. Là j'étais juste à la partie constat, donc vous n'avez pas commencé, maintenant je vais passer à la partie coup de gueule. Bon, alors deux choses l'une. Moi, il y a un moment donné, je veux dire, moi ça fait un moment que Ubisoft, je n'attends plus rien de cette boîte, hein. Je veux dire, enfin en tout cas sur PC, vu comment ils traitent leurs clients, maintenant t'as Ubisoft qui dit en gros qu'ils ne sont. En grosso modo, ils ne sont pas intéressés par le marché du jeu PC.
Oui, c'est ça.
Je suis désolé.
C'est très
Donc
clairement ça.
bon, je pense que là, il faut apporter les papiers de divorce. Parce que là, en fait, la situation, un peu, tu vois, c'est un peu comme ces vieux couples qui se regardent en chien de faïence, qui sont encore ensemble, mais ils osent pas se dire au revoir, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que faut acter que bon, Ubisoft n'en a rien à foutre du jeu PC. Je pense que là, on a eu la démonstration par A plus B que voilà. Et bon, quoi qu'il arrive, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de. Effectivement, vous voulez pas développer sur PC, ok. Non mais on arrête. Perdez pas votre temps avec nous, on perdra pas notre temps avec vous. On arrête les frais, quoi. Je veux dire, des jeux, c'est pas ce qui nous manque sur PC, contrairement à la légende urbaine. Moi, je veux dire, là, en ce moment, je passe mon temps à jouer sur PC, quoi. Bon, Ubisoft, pour moi, ça m'horripile en plus parce que vraiment, ils ont une conception de, ils traitent leurs clients en fait, parce que finalement, c'est ça, quoi. Ils traitent leurs clients comme de la merde. Et c'est les pirates qui vont jouer à leur jeu, quoi. Je veux dire, regardez Rayman, par exemple. Rayman, il ne le sort pas sur PC, pour le moment en tout cas. Et les joueurs PC, ils pourront y jouer quand même, via des méthodes dont je ne parlerai pas ici parce que c'est pas mon rôle. Comme d'habitude, c'est les pirates qui sont favorisés. Voilà, bravo.
Et ouais,
Bravo,
mais ils sont
bravo
toujours
Ubisoft.
trompés de cible, de toute manière.
Vous allez favoriser le piratage. Vous allez arriver exactement à l'exact opposé de ce que vous voulez faire. Les gens vont pirater vos jeux. Moi, je vous rassure, ça m'intéresse même pas de pirater au jeu. Vous voyez, franchement, parce que pour moi, même pirater un jeu, tu vois, quand tu pirates un jeu, il y a forcément un moment ou un autre, si t'apprécies le jeu, tu vas vouloir en parler. Et mine de rien, quand tu parles d'un truc, ça fait du buzz autour du jeu, tu vois. Et moi, j'ai même pas envie de ça, tu vois. J'ai même pas envie de cautionner cette boîte. Cette boîte m'exaspère. Et j'en suis arrivé à un point, tu vois, où même un jeu comme Rayman Origins, que j'envisageais d'acheter sur console, que j'attendais, je suis en train de me dire, mais franchement, est-ce qu'une boîte comme ça vaut le coup de la soutenir, tu vois? Parce que même si j'adore Michel Ancel, à chaque fois j'entends ce mec parler, c'est un mec qui a l'air passionné par son métier et tout, mais la boîte qu'il y a derrière lui, franchement, c'est juste plus possible, quoi. C'est ras-le-bol, marre, marre de cette boîte. Voilà.
Voilà. Donc on aura bien compris ton coup de gueule et je trouve qu'il est assez justifié. Et je trouve que c'est dommage de pénaliser des jeux comme Rayman Origins. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il se tire une balle dans le pied là. Parce que, enfin, moi je veux pas dire, mais quand on voit les volumes de vente qui se font sur Steam, je
Oui,
pense que
surtout qu'en plus,
c'est fermer les yeux que de dire que tous les joueurs PC sont des pirates.
Oui,
C'est
non, mais surtout
ridicule.
qu'en plus, il parle de DRM. Je suis
Ouais.
désolé. Steam, c'est un DRM, hein. Faut arrêter de se moquer du monde. Steam, c'est un DRM, déjà, à la base. Vous allez pas, en plus, nous rajouter votre putain de DRM de connexion à la con, ou qui marche une fois sur deux parce que vos serveurs, ils sont en rade, tu vois. Non, mais ça, à un moment, ça, stop, quoi. Je veux dire, moi, quand j'ai acheté FromDust, j'ai donné ma confiance à Ubisoft, j'ai acheté FromDust, tu vois. Je me suis retrouvé avec un DRM alors qu'on m'avait dit qu'il n'y en aurait pas. Là, tu vois, c'est depuis ce moment-là, moi, déjà, j'avais fait une croix sur Ubisoft, en tout cas sur PC. Maintenant, moi, c'est clair, je pense que ça va être une croix sur Ubisoft tout court. Ça va être réglé.
Ouais, bon, c'est un petit peu dommage quand même, mais bon. Et
Oh oui, mais bon,
je
à un moment,
comprends ta colère
tu
en
veux
tout
dire,
cas.
voilà, quoi, moi, je suis quelqu'un, si tu veux, je pense que quand on est un joueur et qu'on a une certaine initiative, à un moment donné, voilà, quoi, faut être cohérent dans les propos et dans les actes, et voilà.
Ouais.
Ah, bon, quoi qu'il en soit, c'en est terminé pour l'actualité cette semaine, et on va passer à nos jeux du moment avec un jeu Ubisoft,
Ouais, c'est
n'est-ce pas, mon cher
un petit peu
Andren?
ballot,
Oh, mais bon, je m'en fous, c'est pas moi qui y joue, donc bon, c'est
hein.
toi qui vas nous parler de Assassin's Creed Revelation.
There comes a time in every man's life when revenge is not enough, and the intrigue of secrets is past. He wants answers.
For 3 decades, I have fought for those who have suffered the pain of injustice.
The Templars know the truth. Humans are weak.
Bring me the assassin!
Why will you not surrender?
I never learned how.
Fight with me and show them what it means to cross the assassins.
Left to run now.
Not for me, and not for you.
Avec le petit accent, c'est bien. Donc oui, Assassin's Creed Révélation, donc c'est le troisième et dernier épisode, enfin, on imagine. Troisième et dernier épisode de la série Assassin's Creed 2, qui était une trilogie, en fait, sur Ezio Auditore da Firenze, l'italien, si vous n'avez pas compris à mon accent de merde. Et donc voilà, donc c'est sorti le 15 novembre 2011, et je vous avoue que moi, personnellement, j'étais très très frileux à l'idée de voir arriver Assassin's Creed Révélation, mais vu que je suis très fan de la série et que je joue sur console et donc que je n'ai pas les problèmes d'éthique de Monsieur le Tyran.
Bah moi aussi je joue sur console. C'est,
oui
c'est
non mais je veux dire voilà. Donc, bon et sachant qu'Assassin's Creed Révélation n'est pas sorti sur PC encore. Bref.
Ouais.
Donc voilà, moi j'étais assez dubitatif parce que personnellement Ezio, moi j'ai jamais vraiment accroché à ce personnage-là. Et je me disais, est-ce qu'ils sont pas en train d'user jusqu'à la corde leur licence qui au demeurant est, je trouve très intéressante. J'avais vraiment des doutes et vous avez pu l'entendre, vous avez pu m'entendre plusieurs fois le dire au cours de podcast. Et bon, évidemment, j'ai craqué sur Révélation puisque vous savez qu'Assassin's Creed sans son scénario, ce n'est plus Assassin's Creed. Et si on n'a pas la suite. Après des cliffhangers comme dans celui de Brotherhood, bah c'est un petit peu dommage de pas.
Alors justement, mon cher Mandren, déjà on va commencer au niveau du scénario. Qu'apporte est-ce que cet Assassin's Creed porte bien son titre?
Oui. Alors donc je vais pas vous faire le résumé du scénario parce que ça serait spoiler Brotherhood et j'ai pas envie de spoiler ça. Donc en fait. Je vais juste le dire en termes très généraux. Au niveau du scénario, je trouve que il y a des révélations, notamment au sujet de Desmond. Donc Desmond, vous savez, c'est le personnage que l'on joue dans les années à l'année 2012 en fait, dans un monde assez aseptisé. Et là, pour le coup, on parlait de futur tout à l'heure. Là, c'est vraiment un futur très très propre sur lui. Et là pour le coup on a vraiment des révélations sur Desmond et c'est très intéressant, notamment sur son passé puisque vous savez que Desmond à la base est amnésique et il va être amené en fait petit à petit à se souvenir de son passé et je trouve que c'est amené par des phases de gameplay qui sont peut-être pas les plus intéressantes du monde mais qui ont le mérite d'être là et qui sont pas mal, j'en parlerai un petit peu plus tard. Bon, donc au niveau du scénario, donc on a les révélations sur Desmond. Ça c'est bien, et notamment sur la suite d'Assassin's Creed, où on peut aller en conjecture, mais je ne le ferai pas là. Vous avez des forums pour ça, et c'est très bien fait pour ça. Et il y a la conclusion de la trilogie d'Ezio, qui est, à mon sens, plutôt pas mal faite, puisque vous savez que Ezio, donc on l'a vu naître dans Assassin's Creed 2. On l'a vu devenir un véritable assassin dans le 2 et dans Brotherhood, et on l'incarne vers 50 ans en fait, au début des années 1510, dans Révélation. Et donc là, il est clairement en fin de vie, et là ouais. C'est un véritable maître assassin.
Juste une question, je crois savoir qu'aussi il y avait le retour d'Atair dans cet épisode.
Et
alors est-ce que c'est bien ficelé, est-ce que c'est cohérent déjà, a priori donc de ce que je comprends, il va y avoir des flashbacks si on joue Altaïr.
C'est ça. Alors
donc est-ce que c'est pas trop le bordel en fait?
Disons
en
fait déjà au niveau de la narration, c'est intégré au cœur même du jeu. C'est-à-dire que le jeu en fait Altaïr Ezio arrive à Constantinople dans le but de trouver des artefacts qui ont appartenu à Altaïr, et ces artefacts-là qui vont amener des flashbacks dans la vie d'Altaïr, donc que ce soit avant Assassin's Creed 1 ou après. Et donc on jouera jamais en fait une phase qu'on a déjà fait dans Assassin's Creed 1, ça serait ridicule. Du coup, avec ces phases-là de flashbacks sur Altaïr, on entre vraiment dans ce qu'on n'a jamais vu sur Altaïr, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça comble un vide qu'il y avait entre un vide scénaristique en fait sur la vie d'Altaïr, et je trouve que le personnage est bien approfondi, notamment en termes de ses relations avec les autres et de ce qui a suivi Assassin's Creed 1.
Et ouais, donc non content de développer Ezio, ça développe aussi Altaïr.
Je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de très réussi, et malheureusement je trouve, parce qu'en fait ces phases de flashback, on incarne Altaïr. Le problème, c'est que ces phases-là, je trouve qu'elles sont très courtes et trop simples. Et ça, c'est peut-être un petit bémol que j'apporterai là-dessus, c'est que en gros, il y a 5 ou 6 phases, je me rappelle plus, 5 ou 6 phases avec Altaïr, qui sont malheureusement trop courtes et qui, en fait, qui ne font que servir le scénario et pas vraiment le gameplay. Donc ça, c'est juste un peu dommage.
Ok. Voilà. Et donc, au niveau du gameplay, par contre, alors, là, est-ce que il y a des nouveautés ou c'est Assassin's Creed Brotherhood 2.5 ?
Alors,
qui déjà été Assassin's Creed 2.5.
Alors, donc, globalement, ce qu'on peut dire d'Assassin's Creed Révélation, c'est que il reprend tout ce qu'il y a de bon dans Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Brotherhood. Tout ce qui avait fait que Assassin's Creed 2 était bien meilleur en termes de gameplay qu'Assassin's Creed 1, et la diversité de gameplay qu'avait amené Brotherhood, il reprend tout ça, donc avec une base extrêmement solide, et donc du coup les gens vont dire ça fait extrêmement redite, je suis assez d'accord avec eux, mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Donc les phases avec Desmond, donc c'est des phases qui sont vues à la première personne, ce qui est assez assez bizarre en fait au départ. C'est des phases de plateforme, c'est pas compliqué, bon c'est, j'ai pas envie de spoiler non plus, donc je peux pas trop vous en dire, mais bon c'est pas les phases les plus intéressantes du jeu, c'est très clairement, mais qui amène en fait avec un monologue intérieur les révélations sur Desmond. Donc rien que pour ça c'est intéressant. Après il y a toute la partie qui de crafting de bombes. Alors Constantinople, c'est une ville à laquelle, enfin dans laquelle il y a pas mal d'armes à feu et notamment des bombes. Donc on l'apprend avec par l'intermédiaire d'un personnage dans le jeu, et donc il va amener toute cette phase de tout cet aspect de crafting en fait, où vous allez ramasser en fait sur les ennemis ou dans des coffres un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de créer des bombes, donc avec une explosion plus ou moins grande, des capsules qui vont par exemple qui vont se coller sur un adversaire, ou des trucs qui vont être juste pour faire diversion. Donc ça, donc en fait les bombes tu peux t'en servir pour 3 choses. Donc tuer ton ennemi bien évidemment, faire diversion, ou donc faire diversion en faisant peur à la population, ou attirer les gardes vers un endroit, vers un endroit différent. Donc ça, en fait, ça apporte le petit plus de diversité sur comment je gère cette situation-là, puisque à la base, Assassin's Creed, c'est quand même un jeu où il vaut mieux s'infiltrer, même si ça a beaucoup disparu sur Assassin's Creed 2 et Brotherhood. On peut toujours foncer dans le tas et toujours s'en sortir. C'est toujours le cas dans Révélation, même s'il y a des adversaires qui sont beaucoup plus coriaces et vous allez mourir si vous foncez dans le tas, le jeu vous encourage quand même à utiliser tous ces choix de diversion, d'infiltration pour résoudre les situations. Donc les bombes en font partie et c'est assez intéressant. Après, donc tu sais que dans Brotherhood il y avait des quartiers en fait qu'il fallait libérer de l'emprise des Templiers. C'est toujours le cas dans Constantinople, avec une phase en plus, c'est-à-dire que quand tu sais qu'il y a le système de réputation, plus tu fais des actes répréhensibles, plus les Templiers vont être conscients de ta présence. Et donc si tu es complètement connu des Templiers, ils vont commencer à attaquer tes quartiers que tu contrôles par les assassins. Et si tu, donc c'est ce qu'on appelle les quartiers contestés, donc les Templiers vont reprendre possession des lieux, et toi du coup il va falloir que tu attaques ces quartiers qui sont du coup super sécurisés. Donc une fois que t'as réussi à reprendre ce quartier là, il faut que tu, donc là il y a une nouvelle phase qui est totalement nouvelle, c'est une phase de tower defense, où en fait tu vas placer des assassins sur des toits, donc notamment des arbalétriers, des fusiliers, pour empêcher en fait des vagues de templiers qui t'arrivent à la figure, pour les empêcher d'arriver à ta tour des assassins. Sur l'aspect diversité du truc, je suis assez d'accord dans le principe, mais je trouve que cette phase de tower defense c'est pas forcément la meilleure façon de diversifier ça, puisque déjà c'est super chiant de reprendre un quartier qui a été perdu. Et deuxième, la phase de tower defense, je trouve, est assez difficile de la masteriser en fait. Normalement, un tower defense, si tu maîtrises bien, il y a aucune chance que ton adversaire réussisse à passer. Là, je trouve que c'est quand même un petit peu plus aléatoire. Il y a beaucoup trop de vagues. Je trouve que c'est trop long. Et puis au niveau du placement de tes unités, je trouve que c'est pas toujours très clair. Donc il y a un système de morale. Plus tu tues des Templiers, plus t'as du moral. Donc plus tu peux poser des assassins pour te protéger. Mais je trouve que c'est pas très heureux comme phase de tower défense. Donc je la retiendrai pas personnellement.
Une question. L'une des grandes forces de Assassin's Creed Brotherhood, c'est son multijoueur.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y en a un déjà sur celui-là? Et si oui, en quoi il est différent de celui de Brotherhood?
Alors,
Est-ce qu'il est bien déjà?
déjà, celui de Brotherhood était novateur en termes de multijoueur. Donc en fait, donc pour ceux qui n'ont jamais joué au multijoueur d'Assassin's Creed Brotherhood, donc c'était tout nouveau à la base. C'est développé par les petits Français d'Annecy, d'Ubisoft Annecy, et qui, en gros, en fait, c'est un jeu de, je t'assassine, tu m'assassines, j'essaie de me cacher le plus possible en fait. Donc vous êtes dans des maps. Plutôt petite, même si c'est, enfin bon, c'est juste à nuancer un petit peu.
Et pour le coup, là, c'est la même chose
Oui.
ou pas?
Alors c'est la même chose avec plus de modes de jeu. Je t'avoue que j'ai pas fait tous les modes sur Brotherhood, mais je les ai tous faits sur Révélation. Donc il y a des modes, par exemple, de capture de reliques. Enfin, c'est des modes qui sont assez classiques, hein. Capture de
C'est
reliques.
capture de flag,
Ouais, c'est
ouais,
ça.
d'accord.
Tu as par exemple un seul mec contre tous, des trucs par équipe aussi. Enfin bon, donc pour vraiment faire le pitch du multijoueur pour celui qui n'y a jamais joué, tu incarnes, mettons, un assassin classique, et tu te balades dans la map avec des joueurs qui ont des skins à peu près équivalents à ceux des villageois qui se
Ouais.
baladent. Et donc
En
en fait,
gros, l'idée, c'est, attends, je vais résumer un peu. L'idée, c'est que vous avez des joueurs qui sont habillés comme pour les autres joueurs ont l'apparence de PNJ normaux, et vous allez devoir repérer parmi les PNJ normaux votre cible.
exact.
Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il faut regarder bien observer les PNJ pour vraiment voir les PNJ qui agissent bizarrement, etc. Bref, repérer des assassins,
Par
quoi.
exemple, celui qui court va forcément être un assassin. Celui
Ouais.
qui fonce sur un autre villageois, c'est forcément un assassin. Et donc, en fait, vous avez l'image de votre cible. Et donc en fait le but c'est de repérer sans être repéré puisque vous avez forcément quelqu'un qui vous suit aussi. Et ça franchement je trouve que c'est très bien fait. Par contre c'est toujours le même bémol que j'ai avec les modes multijoueurs, c'est que les modes multijoueurs avec expérience, j'en avais déjà parlé avec Call of Duty la semaine dernière, c'est que il y a des niveaux. Et le problème c'est qu'avec les niveaux tu débloques des armes qui sont cheatées par rapport aux joueurs qui commencent. Et le problème, c'est que il y a très peu de gens qui arrivent à aller au niveau 45 parce que c'est très long
Mais
de monter de
même quand
niveau
tu
très vite.
commences, il n'y a pas moyen de one shot hein, même quand tu es nouveau
Si, si, bien
hein.
sûr. Si, c'est faisable. Mais disons que le mec qui est niveau 45 va toujours et systématiquement être le premier de la map. Alors
Ok,
tu peux le
d'accord.
tuer, c'est possible, mais il va toujours se retrouver avec 35 kills, 5 morts. Tu vois, c'est
Ouais, c'est un
Et
peu,
ça,
ouais.
c'est assez pénible parce que l'évolution, la progression dans les niveaux dans Assassin's Creed Révélation et dans le multijoueur est très très lente. Il faut au moins, enfin, si t'es un joueur moyen comme moi, il te faut au moins quatre parties qui durent à chaque fois 10 minutes pour passer de niveau. Et
Ah ouais,
c'est quand
c'est
même
long,
long.
effectivement.
C'est très long. Et vous savez, en fait, le multijoueur d'Assassin's Creed est lent puisqu'il est basé sur le cache-cache en fait. Donc
Bah oui, c'est l'observation, c'est pas du bruinage, quoi.
Et plus, en fait, plus tu es discret, plus tu vas marquer de points. Et moi, je trouve que c'est mal expliqué comment tu vas gagner le plus de points possible. Parce que par exemple, j'ai vu des gens qui m'ont fragué en faisant 800 points, par exemple. Et moi, je suis capable de faire des frags super discrets, et j'ai jamais eu plus de 700 points. Donc je comprends pas parce que c'est pas expliqué. Donc t'as une phase où on t'explique comment ça marche, mais ils t'expliquent pas exactement comment tu vas faire pour gagner le plus de points possible. C'est un petit peu dommage, mais enfin, c'est quand même un multijoueur qui est addictif, qui va en faire pester quelques-uns quand même, parce que parfois c'est très déséquilibré si vous n'avez pas des joueurs qui ont le même niveau que vous. Mais c'est quand même sympa. On y passe des bonnes heures de jeu assez sympathiques. Mais c'est clairement pas le jeu qui va vous, c'est clairement pas le mode multijoueur qui va vous faire rester sur le jeu pendant 3 ans. Très clairement.
Juste une dernière question. Alors là, plus d'un point de vue tantôt technique que artistique. Mmh. Alors déjà techniquement, est-ce que ça te paraît assez solide? Parce que bon, ça. Je veux dire, on se rend bien compte que là, depuis Assassin's Creed 2, quand même, le jeu n'a pas évolué tant que ça, par rapport à d'autres licences, déjà. Et ensuite, au niveau de, que ce soit la direction artistique ou des musiques, t'en penses quoi?
Alors, donc déjà, au niveau technique, je trouve que c'est assez solide, même si ça commence à dater un petit peu. En fait, entre Assassin's Creed 2 et Brotherhood, il y avait quand même eu un pas de franchi. Là, on est un petit peu plus haut en termes de beauté que Brotherhood, mais ça reste pas frappant, quoi. C'est pas comme si on avait changé de moteur, tu vois. Par contre, du coup, vu que c'est très solide, il y a pas de trucs qui jurent visuellement. J'ai jamais rencontré un truc qui m'a fait il y a eu un problème au niveau du design. Et donc là, par contre, au niveau de l'artistique, donc là, on est dans une toute nouvelle ville qui est Constantinople, qui est énorme, que tu ne parcourras pas du tout en cheval, d'ailleurs, parce qu'ils ont complètement viré cette phase de cheval, puisque c'est toujours le truc récurrent dans Assassin's Creed. On dit le cheval, c'est chiant, c'est la phase de gameplay que je déteste. Et donc ils ont complètement viré ça. Constantinople, c'est une ville qui est beaucoup plus dans la verticalité. C'est pas des gratte-ciels non plus, hein, entendons-nous bien, mais c'est plus vertical. Il y a vraiment moyen de passer sur des situations sur les toits si tu réussis à tuer bien les gardes qui sont sur les toits, évidemment. Et ça, je trouve que c'est sympa. Il y a des vraies phases d'escalade qui sont vraiment bien. Par contre, je trouve que, tu sais, il y a les points d'observation qui sont caractéristiques d'Assassin's Creed, où tu vas faire ton saut de l'aigle qui est toujours magnifique dans la série. Le problème, c'est que c'est toujours les mêmes points d'observation. Donc, c'est toujours des grands minarets dans Constantinople. Il y a juste quelques grands bâtiments bien connus de Constantinople, enfin d'Istanbul, comme on le connaît maintenant. Qui sont vraiment magnifiques, mais pas trop de phases de phases d'escalade qui sont vraiment mémorables. Mis à part celle du début du jeu qui est géniale, je trouve. Mais voilà. Sinon, en termes donc de design, je trouve que Constantinople, c'est une ville qui se tient vraiment, où on est vraiment dedans avec une vie. Il y a beaucoup de PNJ qui sont affichés à l'écran. Généralement, dans les Assassin's Creed, dans la ville, t'entends toujours des personnages qui se parlent. Et au bout de quelques heures de jeu, tu commences à repérer les phrases que t'entends tout le temps.
Ouais, c'est classique ça.
Dans Révélation,
je veux dire dans Oblivion, etc.
Et dans Révélation, alors j'ai joué une vingtaine d'heures de jeu. Il y a jamais eu de phrase que j'ai entendue 15 fois.
D'accord.
Et ça franchement c'est bien. Et quand tu te caches, mettons dans un groupe de villageois, t'as des gens, tu entends la conversation des gens qui te.
Juste une question, intégralement doublée en français, donc.
Oui, intégralement. Okay. Vous avez d'ailleurs le choix de changer et de vous mettre en VO, ce qui est toujours appréciable. C'est vraiment sympa. Et de mettre des sous-titres, évidemment. Donc ça, c'est possible et c'est vraiment sympa. Et la VF est très convaincante. Et donc c'était la dernière partie de ta question, c'était concernant les musiques.
Musique, est-ce que tu achèterais la bande son, cher Mordred?
Je pense que je l'achèterais pas, mais on sent qu'il y a un passif au niveau de la bande originale des Assassin's Creed de la série d'Ezio. Et il y a par moment, il y a une vraie mélancolie qui se dégage de la bande originale, et je trouve que on sent bien la fin d'une époque à ce moment-là.
Okay.
Et je trouve que c'est quand même bien. C'est en termes de musique, je trouve que c'est sympa. Alors j'ai juste un petit truc à dire, c'est que habituellement dans les Assassin's Creed, quand il y a une phase de combat, tu sens vraiment que tu passes à une musique bien plus entraînante. Et là, ça m'a pas frappé en fait. J'ai pas eu de de grands moments d'épique en pleine baston, et pourtant, Dieu sait que les bastons dans Assassin's Creed Revelations ont du punch, mais c'est impressionnant, quoi. Tu peux te taper une quinzaine de gardes avec des moves, mais absolument magnifiques. Et c'est vrai que ça manque un petit peu cette musique épique dans les combats. Voilà. Donc je vais conclure cet avis sur Assassin's Creed Revelations en disant que on sent clairement que il faut s'arrêter là avec Ezio. Et que Ubisoft maintenant c'est terminé avec Ezio, il y en aura plus. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre en jouant au jeu. On sent que maintenant il y a on part vers autre chose, et notamment avec Desmond, et c'est pas un mal. Alors donc personnellement, moi j'ai quelques idées sur où va se passer Assassin's Creed 3, mais bon, je vais pas les partager là parce que ça sert à rien. Surtout que je vais avoir l'air d'un con si c'est pas ça. Il y a quelques nouveautés, mais je pense que la personne qui veut commencer Assassin's Creed, c'est pas avec Révélation qu'il faut le faire.
Bah surtout si tout est basé sur le scénar, comme tu dis.
Honnêtement.
Ouais, c'est un peu que j'ai envie de dire, c'est un peu comme les Legacy of Kain, tu vois, où franchement, si t'avais pas suivi la série depuis le début, t'étais un peu largué, quoi, au niveau du scénario.
Parce que du coup, vous avez tout le rappel d'Altaïr. Si vous avez pas fait Assassin's Creed 1, c'est vraiment dommage de voir tout ce qui est Altaïr sans y avoir joué. Ça, c'est vraiment dommage. Celui qui veut commencer Assassin's Creed, je pense qu'il faut commencer avec le 2 minimum. S'il veut pas se faire de mal avec Assassin's Creed 1, parce qu'il a vieilli comme Assassin's Creed 1 en termes de gameplay.
Pas que de gameplay d'ailleurs, j'ai envie de dire.
Et donc Assassin's Creed Révélation, la fin d'une époque, et je pense que c'est nécessaire. J'espère quand même qu'Assassin's Creed 3 sortira pas l'année prochaine, parce que j'ai vraiment peur qu'Ubisoft use cette licence qui est pour moi une des meilleures licences qu'il y a sur console HD, qui est née avec les consoles HD, et qui a vraiment pris de l'ampleur au fil des ans. J'espère que Assassin's Creed 3 va pas gâcher tout ce passif là. Voilà, en tout cas, c'était le moment de s'arrêter, et on sent vraiment l'usure qui arrive avec Révélation. Donc il faut s'arrêter, prendre du temps et recommencer sur des bonnes bases de gameplay, évidemment, de scénario, mais apporter un vent frais sur la série avec Assassin's Creed 3. Ça va être vraiment le facteur déterminant sur ce troisième épisode de la série, à mon avis. Voilà.
Ouais, voilà. Donc, c'en est pour tout pour cette semaine sur le jeu du moment. On va donc passer à notre point culture.
How old are you in real time? 28. I'm 105. Does it show? But the day comes when you've had enough. Your mind can be spent even if your body's not.
That's your problem? You've been alive too long. You ever known anyone who's died?
For a few to be immortal, many must die.
What the hell's that supposed to mean?
You really don't know, do you? Everyone can't live forever. Where would we put them? Why do you think there are time zones? Why do you think taxes and prices go up the same day in the ghetto? The cost of living keeps rising to make sure people keep dying. How else could there be men with a million years while most live day to day? But the truth is, there's more than enough. No one has to die before their time. Few had as much time as I have. What would you do with it?
If I had all that time, I sure as hell wouldn't waste it.
Oui. Et donc, Morgan, je crois que tu voulais nous parler d'un film cette semaine.
Évidemment, moi je suis monsieur film, je vais au cinéma tout le temps, donc évidemment, quand je parle de point culture, je parle de film. Et aujourd'hui, on va parler...
Non, mais c'est déjà bien, tu as arrêté de faire la grève. C'est...
Je voulais que tu travailles un petit peu la semaine dernière, c'est pour ça. C'est vrai. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de Time Out. C'est un film de science-fiction réalisé par Andrew Niccol. Alors peut-être que vous connaissez pas ce nom, mais si je vous dis Bienvenue à Gattaca, si je vous dis Lord of War, qui est un vrai vraiment bon film, là vous vous dites, bon, il y a quand même un réalisateur pas mal.
Il y a du niveau, quoi.
Ouais, il y a du niveau. Alors, à savoir que Andrew Niccol donc réalise Time Out et il scénarise Time Out, comme il avait scénarisé Bienvenue à Gattaca d'ailleurs.
Et donc, j'ai cru comprendre que c'était, comme Bienvenue à Gattaca, un film de SF.
C'est un film de SF, oui. Alors, il part du principe en fait. Donc, tout le monde connaît évidemment le proverbe assez énervant qui dit le temps c'est de l'argent. Eh ben, Andrew Niccol est parti du principe que on va littéraliser cette expression-là et on va mettre ça dans un futur d'anticipation. Donc, dans le futur en fait, les hommes sont programmés pour s'arrêter de vieillir à 25 ans, au bout desquels il ne leur reste plus qu'une année à vivre, symbolisée par une horloge qui court sur leur avant-bras. Et seuls les plus
Alors, comment
riches.
on en est arrivé là?
Comment
Ça.
on en est arrivé là? C'est un petit peu le spoiler du truc, donc je vais pas te le dire. Mais
Ah.
donc en gros, seuls les plus riches pourront réussir à vivre beaucoup plus longtemps, puisque évidemment le temps c'est de l'argent, donc tu peux acheter du temps. Et les plus aisés qui ont élu domicile dans le quartier ultra sécurisé de New Greenwich deviennent quasiment immortels, tandis que les plus pauvres en fait sont parqués dans des ghettos. Ce qu'ils appellent les zones temps, et c'est les pauvres en fait meurent tous les jours puisqu'évidemment ils ont plus une seule seconde qui leur est allouée et quand t'as plus de seconde tu meurs. Et puisque évidemment vu que le temps c'est de l'argent, tous les biens matériels tu les achètes avec du temps. Donc c'est-à-dire que quand t'as 25 ans, ton année commence à s'écouler et mettons tu veux acheter un café, tu vas payer 3 minutes. Tu veux acheter un ticket de bus, tu vas payer 2 heures. Tu vois, et donc à chaque fois, évidemment quand tu travailles, tu vas gagner un petit peu de temps, mais et ce qui fait qu'au bout d'une année, si t'as plus assez d'argent, si tu es trop pauvre pour t'acheter quelque chose, tu vas mourir. Alors que les riches, eux, deviennent immortels puisqu'ils ont du fric à plus savoir qu'en faire. Et tu vois des gens avec sur leur horloge marqué 1 000 années à vivre encore, tu vois. Et
Ah, c'est cool.
donc en fait commence à se dessiner en fait un monde assez complexe avec ce système de temps en fait. Et c'est je trouve que c'est vraiment bien fait parce que dès le début du film au départ en fait tu saisis mal l'épaisseur du monde qui est écrit par le scénariste, en fait. On se dit que, bon, il est vraiment en train de littéraliser au sens propre le proverbe. Le temps, c'est de l'argent. Donc, tu vas découvrir, par exemple, des gens qui font des bras de fer. Et en faisant ce bras de fer, en fait, ils vont gagner des minutes. Et, enfin, tu vois, c'est les jeux d'argent, c'est pas des jeux d'argent, c'est des jeux de temps. Et si tu perds à ce jeu d'argent, tu vas mourir. Et donc ça
Sympathique.
amène vraiment cette métaphore de le temps c'est de l'argent mais le temps c'est la vie. Et du coup tu sens vraiment cette dichotomie entre le monde des pauvres et le monde des riches qui est totalement barricadé du reste. C'est un petit peu le paradis doré de ces personnes qui ne savent même pas la valeur du temps en fait, puisqu'ils ont toujours vécu avec des milliers d'années à vivre et ils savent qu'ils sont immortels quasiment. Et ces personnes-là font tout pour que les pauvres continuent à mourir, parce que tu te doutes bien que si les pauvres meurent, ça veut dire que le temps qui reste, il est aux riches. Donc tu te rends compte qu'il y a un système totalement cynique qui fait que les riches vont toujours être riches et les pauvres vont toujours mourir parce qu'ils n'auront jamais assez de temps.
Ok. Donc juste une question. Alors au niveau des personnages, par contre, alors déjà est-ce que tu as été convaincu par le jeu des acteurs, j'ai envie de dire,
Alors,
et est-ce que tu pourrais nous présenter un peu les
histoire.
différents protagonistes de cette histoire?
Alors, donc le protagoniste, le personnage principal, il est joué par Justin Timberlake et là on se dit bon Justin Timberlake. Voilà. Il s'appelle Will Salast. Alors bon, pour les Français, ça fait un peu bizarre comme nom.
Est-ce qu'il fait des blagues?
C'est pas vraiment. Par contre, d'ailleurs, il y a pas mal de petits jeux de mots sur le temps et je trouve que c'est assez bien écrit de ce point de vue-là. Et ce personnage-là, en fait, il est évidemment issu du ghetto. Il va vivre des moments assez tragiques au début du film, et il va se rendre compte en fait du parce que en fait si tu veux les pauvres dans le ghetto ne savent pas du tout ce qui se passe. Ils pensent que c'est pareil pour tout le monde, que les riches évidemment ils vont vivre un petit peu plus longtemps que les autres, mais qu'au bout du compte ils vont finir par mourir. Mais en fait ce Will va se rendre compte que les riches font tout pour devenir immortels. Au détriment des pauvres. Et donc du coup va commencer cette donc en fait il va rencontrer un riche qui lui a perdu le sens de la vie et qui en a marre de vivre. Il en a marre d'être immortel. Tu te rends compte de ça? Et en fait il va lui donner son temps. Ce qui fait que Will va pouvoir passer de l'autre côté de la
Ce qui
barrière.
fait qu'on va avoir un putain de pauvre qui va vivre des milliers d'années.
Exactement. En fait le pauvre va passer du côté des riches et il va constater les dégâts que font toute cette richesse. Il va voir en fait que ces personnes ne vivent pas vraiment. Et en fait, il va tout faire pour faire tomber le système. Et donc il va se lier d'amitié, voire plus, avec une personne qui est issue de la bourgeoisie, bien évidemment, qui est la fille en fait d'un des plus gros riches de la planète en fait, qui gère. En fait, c'est le super banquier de l'Amérique, en fait, qui gère exactement toute la banque du temps. Et évidemment, ce mec est immortel. Et évidemment, il va se passer quelque chose avec sa fille. Et donc, va s'enchaîner une course-poursuite. Parce qu'il faut savoir que dans ce film, en fait, je pense que c'est de tous les films que j'ai vus cette année, c'est le film où les acteurs courent le plus. C'est vraiment la course-poursuite à l'état pur, en fait. Ils se font.
Mais du coup, ça devient pas lassant parce que justement, je trouve ça, il y a des films comme ça où je trouve ça un peu lourd, tu vois, où il n'y a pas un temps de pause et tout, c'est tout le
Alors,
temps.
il faut savoir en fait que la phase d'action, parce que c'est aussi un film d'action, c'est pas que de l'anticipation, c'est aussi un film d'action. C'est sans doute le moment peut-être le moins réussi du film, à savoir que bon, il y a des temps de pause, hein, bien évidemment, parce que
Parce que mine de rien, tu parlais de Bienvenue à Gattaca tout à l'heure, c'était un film assez posé justement.
ouais. Et en fait, c'est pas posé puisqu'il y a de l'action qui entrecoupe en fait ces phases d'approfondissement du monde. Là, il y a quand même une volonté d'actionner un petit peu la machine action, tu vois, où ces personnages vont être poursuivis par les gardes du temps, donc qui sont en gros les gendarmes qui sont choisis pour garder la banque du temps, et que eux justement que les personnages principaux vont tout faire en fait pour réussir à donner du temps aux pauvres. Et donc en gros c'est un petit peu les Robin des Bois du truc. Donc du coup en fait il y a vraiment une course-poursuite. Je pense que celui qui va voir Time Out juste pour voir un film d'action va être déçu, parce qu'en fait dans les bandes annonces ce qu'on nous vend c'est ça, hein, c'est un film d'action. C'est faut savoir que c'est pas le truc qui est le plus réussi dans le film. Il y a de la course-poursuite, mais bon, tu vas pas rester accroché à ton fauteuil, quoi. C'est pas voilà, c'est pas aussi prenant qu'un vrai blockbuster, quoi. Mais encore une fois, c'est pas le but. Le but de Time Out, c'est vraiment de rentrer dans la métaphore, parce qu'en fait, ça fait vraiment, en fait, la science-fiction, ça parle du futur, bien évidemment, mais ça parle aussi du présent. Et là, on a vraiment une métaphore de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec une société qui est entièrement fondée autour de la société de marché et de la bourse. Et c'est vraiment ça que critique Time Out. Et je pense que c'est le truc qui fait que Time Out est très intéressant et qui, à mon avis, montre que la science-fiction, c'est pas que du grand spectacle. C'est pas des vaisseaux spatiaux qui de partout. C'est un petit peu comme Bienvenue à Gattaca réussissait à montrer comment c'est. Enfin, il y avait une vraie réflexion derrière Bienvenue à Gattaca. C'était un film qui était prenant. Time Out, il y a tout autant une réflexion et je pense que c'est très actuel comme réflexion.
Et donc, juste au niveau des acteurs, donc, alors est-ce que Justin Timberlake est convaincant dans son rôle de...
Bah, c'est difficile à dire parce que c'est un rôle qui est assez sportif, l'air de rien. Donc là-dessus, évidemment, il marche très bien. Après, il n'y a pas
Est-ce que
vraiment.
c'est l'un de ces acteurs mono-expressifs
Non, il est pas si mono-expressif que ça. Par contre, il y a une grosse scène d'émotion au début du film, et je trouve qu'elle est pas. Enfin, elle pourrait être plus poignante, et je pense que c'est dû à son jeu d'acteur. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus, mais bon, globalement sur le reste du film, il est plutôt convaincant. Voilà, donc c'est à savoir qu'il n'est pas à son coup d'essai non plus, hein, Justin Timberlake, qui commence à faire pas mal de films, à tourner pas mal. Donc voilà, c'est pas non plus, il va pas avoir l'award du pire acteur de l'année, quoi. Mais bon, c'est pas non plus, ça méritera pas un Oscar, très clairement pas. Voilà. Donc bon, donc pour conclure un petit peu sur Time Out, à moins que tu aies une dernière question.
Bon, non.
Donc pour conclure, c'est un film de science-fiction qui propose une vraie réflexion qui ne va pas juste sur le côté basique de l'action. À savoir, tout à l'heure on parlait du futuriste en fait. Là le c'est un monde qui est vraiment qui fait le plus possible rappel à des éléments contemporains. C'est pas un truc super propre comme pouvait être Minority Report par exemple. C'est vraiment un futur qui est presque crade, tu vois. C'est assez contemporain dans l'esprit, et ça représente vraiment la réflexion sur ce qu'on peut vivre de nos jours. Et je trouve que la vraie force de Time Out, c'est donc sa réalisation, mais surtout son scénario qui est vraiment bien écrit et pour le coup qui fait réfléchir. Et voilà, donc peut-être un film d'action qui décevra les fans de blockbuster.
Il dure combien de temps ce film en fait?
Il dure 1h50.
Voilà. Ah oui, et c'est quand même c'est pas court
pas
non plus.
Passer, c'est... Mais je pense que c'est nécessaire pour mettre en place ce monde, cet univers-là. Parce que s'il y avait eu 1h30, on serait passé à côté de toutes ces petites.
Ouais, donc c'est pas non plus un film où malgré le fait qu'il soit long, au bout de 2 heures t'as pas envie de sortir de la salle, de dire putain j'en ai marre, faut que je me casse.
Non,
faut que je sorte.
Jamais tu te diras je me fais chier dans ce film.
C'est pas Transformers quoi.
Voilà, voilà. Donc on peut faire un parallèle. C'est vrai que Transformers, je m'étais fait chier au bout d'une heure. Là non. T'as même envie d'en connaître un petit peu plus sur ce monde-là en fait.
Okay.
Et voilà. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est un bon moment à passer que Time Out. Voilà.
Et ben voilà, nous en avons fini pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Jouez bien, profitez de vos jeux, soutenez les indépendants. Et salut.
Ciao.